BFM Business, BFM Crypto, les pros. Amaury de Tonquédec.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous. C'est les pros des cryptos hein, et on va revenir sur cette folle semaine, semaine historique pour le marché crypto, notamment avec Claire Balva. Bonjour Claire.
Bonjour.
Directrice de la stratégie de Debloc. Et puis Owen Simonin aussi est avec nous à distance. Bonjour Owen, fondateur de la chaîne YouTube Asher et CEO de Meria. On va revenir pour commencer sur les dernières actualités qui ont aidé Bitcoin hein, à passer cette barre symbolique des 100 000 dollars, notamment après la démission de Gary Gensler, connu pour son hostilité hein, envers les cryptos. C'est un pro-crypto qui est nommé à la tête de la SEC, hein, le gendarme boursier américain. C'est Paul Atskin. Et puis, dans le même temps, Bitcoin serait comparable à l'or, selon Jérôme Powell. Rien que ça, le président de la Fed. Et enfin, le Bitcoin serait inarrêtable, d'après Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie. Et puis maintenant que la barre des 100 000 dollars est passée, à quoi s'attendre? Qu'est-ce qui pourrait faire exploser le prix du Bitcoin encore à la hausse? Et à l'inverse, qu'est-ce qui pourrait le faire chuter? Malgré l'entrée des institutionnels et peut-être bientôt même de certains États, ce cycle-là sera-t-il semblable au précédent? Plein de questions donc. Et enfin, Claire, Owen, vous n'y échapperez pas. Le grand classique, est-il trop tard pour acheter du Bitcoin? Je vous laisse réfléchir. En attendant, on part sur le marché crypto avec Xavier Fenot. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Qui est en ligne avec nous, associé chez Interactive Trading. Xavier, on est même monté, le Bitcoin est monté jusqu'à 103 000 dollars hier. Le Bitcoin retrace désormais, il est retourné à 5 chiffres, on est autour des 98 000 dollars à l'instant où on se parle. Quel est le prochain seuil technique à surveiller, que ce soit à la baisse comme à la hausse, qui pourrait donner la tendance à venir pour les prochains jours?
Écoutez, déjà on va regarder ce qui va se passer après avoir... Ça te fait un peu peur quand même hier, hein, parce que vous l'avez dit, on est passé au-dessus des 103 000. Puis derrière, dans la foulée, le Bitcoin avait perdu 10%, quasiment 92 000 dollars. En fait, il faut savoir qu'on va avoir affaire à un marché plus technique. C'est vrai que quand un Bitcoin vient de doubler de valeur, alors que ça faisait 8 mois que ça ne bougeait plus ou presque, et encore, un Bitcoin, c'était l'un des plus solides dans un contexte de marché en 2024 très incertain. Bah maintenant, c'est vrai que l'émotivité va prendre le dessus. On a eu 1 milliard de dollars de positions liquidées hier dû à l'effet de levier. En fait, 80% c'était des achats. C'est plus en une journée qu'au mois d'août, quand il avait perdu plus de 20% de sa valeur. Et on était dans une phase de marché pas très favorable. Alors, la bonne nouvelle, c'est que malgré ces pics de volatilité extrêmes qu'on a en cours de journée, bah, il n'y a pour le moment absolument aucun signal de faiblesse, même sur des unités de temps très courtes, ce qui montre finalement que le marché reste très solide. Alors, vous me parlez de niveau technique. Bah, tant que Bitcoin restera au-dessus des 90 000 dollars, on restera toujours dans une tendance haussière à court terme. À partir de là, il faudra se poser des questions et se dire, OK, on risque de temporiser un peu plus longtemps, voire un peu plus fort, jusqu'à 80, 75 000 dollars. On n'en est pas là. En fait, je pense que pour beaucoup, le fait de passer les 100 000 dollars hier, ça devait être un gros signal pour se dire, OK, c'est parti, on va aller à 150 000 tout de suite. Sauf que les vendeurs se sont manifestés, les acheteurs se sont fait très peur avec peut-être une certaine impatience, d'où l'effet de levier. Donc aujourd'hui, le marché reste encore particulièrement haussier. On parle du Bitcoin, mais aussi sur tout le reste. Mais pour absorber en tant qu'investisseur ces pics de volatilité extrême qui va se reproduire encore et de manière beaucoup plus violente, au-delà d'être stoïque et rationnel, en fait, c'est surtout de maîtriser son exposition et de ne pas être excessif dans ses choix, puisque vous allez poser tout à l'heure la question à Owen et Claire si il est encore temps d'acheter le Bitcoin à 100 000 dollars.
Question qu'on ne leur pose jamais, évidemment.
Ouais, encore du potentiel, hein, 120 000, pourquoi pas 140 000 dollars, mais à partir de là, il faut être OK que consolider au moins latéralement, c'est rendre encore plus solide la phase de progression de Bitcoin, et que si on s'est fixé des objectifs par palier, ben, c'est de respecter son plan et d'être rationnel. Rappelle qu'on a connu 2017 après un effondrement de 70% durant un an, avant de vivre l'euphorie de 2021, puis encore 80% de baisse, avant aujourd'hui d'atteindre les 100 000 dollars. Donc n'oublions pas que le marché a besoin de respirer au moins quelques jours, et ce serait même sain pour la suite.
Et Xavier, rapidement, du côté d'Ethereum, Ethereum est toujours à 4 chiffres. Peut-être qu'il passera dans ce cycle haussier les 10 000 dollars et à 5 chiffres, mais pour l'instant, on en est encore loin. Mais il se réveille. Qu'est-ce qu'on peut en dire techniquement?
Ben c'est vrai qu'il reprend de la force hein, depuis deux semaines par rapport au Bitcoin, mais on n'est pas encore dans un retournement, ce qu'on peut appeler un retournement de sous-performance de l'un vis-à-vis de l'autre. Donc c'est vrai que sur l'Ether, il y a encore de la place hein, pour atteindre les records historiques. Je rappelle que c'est des 4 900 dollars atteints en novembre 2021. Là, on est simplement sur les retours, sur les plus hauts de 2024. Donc techniquement, c'est ce qu'on appelle une résistance. Ben, c'est cette zone qui a empêché toute l'année, finalement, les cours d'aller plus haut. Donc Là aussi, c'est normal qu'on s'y arrête quelques temps. Ça peut durer encore quelques jours. En tout cas, au-dessus de 3 600 $, les voyants sont toujours au vert. Mais n'oublions pas qu'on vient quand même de 2 200 $. C'était 81% plus bas. Et là, on était vraiment sur une grosse support, le support de l'année.
Merci beaucoup, Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading, d'avoir été avec nous. Évidemment, on vous retrouvera dans une quinzaine de jours pour faire le point sur ce marché crypto. Tout de suite, je propose qu'on passe aux trois grandes actualités qui ont marqué cette semaine. Owen, je vais commencer par vous. On a eu la démission de Gary Gensler, qu'on a appris il y a un certain nombre de jours. Ça a fait du bruit. Et maintenant, cette semaine, ça y est, on a appris, et c'est ce qui a certainement aidé le Bitcoin à passer ce cap symbolique des 6 chiffres, la nomination d'un pro-crypto, comme on dit, à la tête de la SEC. Rien que ça, le gendarme boursier américain, l'AMF américain, il s'appelle Paul Atskin. Qu'est-ce que ça vous inspire?
En fait, on est rentré dans une position où on a beaucoup, beaucoup d'attentes sur les décisions qui vont être prises et qui vont réellement être appliquées par Donald Trump lors de son investiture. Les promesses électorales, c'est une chose. Il semblerait en effet qu'être pro-crypto ait potentiellement soutenu sa campagne. Maintenant, la vraie question, c'est quel impact ça va avoir réellement sur le marché des crypto-monnaies. À court terme, sa victoire a propulsé les crypto-monnaies, est venue également rassurer les marchés, ça a également donné de la force au dollar américain. Les vraies grosses questions qu'on peut se poser maintenant, c'est qu'est-ce qui va en être réellement une fois qu'il aura pris le pouvoir et une fois justement qu'il va mettre en place certaines choses. Donc le voir commencer justement à désigner certains profils, notamment ce profil pro-crypto à la place de Gary Gensler, non seulement ça donne du crédit aux promesses qu'il a fait et donc aux autres promesses qu'il se doit encore d'exécuter. Il avait promis qu'il ne voulait plus de Gary Gensler et qu'il voudrait le destituer le plus vite possible et qu'il voudrait faire des États-Unis the place to be pour le développement des crypto-monnaies. Et en l'occurrence, ça va dans cette direction, de nommer une personne qui était déjà commissaire de la SEC, en tout cas qu'il a été de 2002 à 2008, sous George W. Bush, et qui, en l'occurrence, a toujours été contre la politique menée par Gary Gensler vis-à-vis des crypto-monnaies, qu'il trouvait trop dur, qu'il trouvait pas assez pro-innovation, mais qui, évidemment, je le rappelle, ça reste, mine de rien, le chairman du régulateur américain. C'est une personne qui se devra quand même d'être un garde-fou, et même s'il est pro-innovation et veut permettre le développement des crypto-monnaies, il va également devoir protéger les investisseurs et jouer son rôle de garde-fou vis-à-vis de cet écosystème. En attendant, c'est venu non seulement donner du crédit aux promesses que Donald Trump a fait, mais ça vient également encourager cette dynamique qui semble ne pas simplement être une promesse et qui semble bel et bien être en œuvre, sur le point d'arriver en tout cas, et qui devrait favoriser non seulement la régulation vis-à-vis des crypto-monnaies, mais donc l'accélération du développement de cet écosystème et de cette technologie.
Claire, comme vient de le dire Owen, pour l'instant, Donald Trump, avant même son investiture, commence à tenir ses promesses côté crypto.
Oui, celle-ci en tout cas. Alors, c'est un signal positif forcément pour le secteur crypto aux États-Unis. Mais il faut bien voir que pour l'instant, ce nouveau gendarme boursier, cette nouvelle tête du gendarme boursier américain, c'est une forme de garantie politique de ce qui va se passer pendant le mandat de Donald Trump. Donc les entreprises crypto peuvent de nouveau respirer, se dire qu'elles vont pas recevoir des courriers de la SEC leur disant qu'elles sont en train de commercialiser des titres financiers. Donc ça, c'est plutôt positif pour le secteur. En revanche, c'est pas une garantie de long terme dans le sens où s'il y a une alternance, par exemple après le mandat de Donald Trump, et qu'on retrouve un nouveau gendarme boursier américain un peu plus agressif, finalement on retombe dans ce qui s'est passé sur les dernières années. Et en fait, la pérennité du marché crypto aux États-Unis, pour moi, elle ne pourra se faire que s'il y a une véritable clarté réglementaire. Donc ça veut dire une réglementation dédiée aux cryptos, qui peut être souple ou stricte, mais idéalement pour le secteur, il faudrait qu'elle soit relativement souple. Mais en tout cas, qu'elle soit clarifiée et stabiliser, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et ce n'est pas juste parce qu'on met Paul Atkins à la tête de la SEC que ça va résoudre tous les problèmes sur le très long terme.
Bon, donc clairement, effectivement, il y a un changement de visage à la tête de la SEC. On verra bien ce qui pourra y être fait. On verra bien à partir du 20 janvier, jour où la personne en question sera investie. Mais on a eu aussi, dans le même temps, une remarque sur de Jérôme Powell, pas n'importe qui, le président de la Fed, la banque centrale américaine, la plus grosse banque centrale au monde, qui compare le Bitcoin à l'or. Est-ce que on peut parler de détail ou de game changer réellement? Owen, je ne sais pas si vous m'entendez.
Tout à fait, je ne savais juste pas si la parole était à moi.
Non, si, pardon, c'était à vous, Owen. Je ne savais pas si la liaison était coupée ou pas, mais c'est bon, allez-y.
Il n'y a aucun souci. Non, je pense qu'il y a différents messages qu'il faut être perçus. Premièrement, on s'était jamais prononcé comme ça sur Bitcoin très clairement, et il y a une différence entre comparer le Bitcoin à l'or et lui donner de l'importance, ou surtout enlever du viseur du et des menaces du dollar américain, l'or. Et j'ai bien l'impression que c'est ça, c'est un double jeu. C'est pas simplement comparer le Bitcoin, comme certains le font, à l'or numérique vis-à-vis de l'or physique, mais c'est surtout essayer de lui donner un angle de vue qui est bien différent de celui que les gens aiment, tout simplement... prendre la comparaison la plus simple que les gens prennent, c'est vraiment le Bitcoin peut être une alternative et peut donc être un danger pour le dollar américain. En venant comparer le Bitcoin à un or numérique, ce qui pour le coup d'un point de vue des fonctions et des services qu'il rend est beaucoup plus proche, naturellement ça permet de noyer le poisson et d'intéresser autre chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de que ce soit la nouvelle nomination au niveau de la SEC, que ce soit les propos de Jérôme Powell alors qu'il ne s'était pas prononcé comme ça vis-à-vis de Bitcoin et que finalement lui donnant certains attributs de l'or, ça vient valoriser l'actif. Ça a non seulement donné encore une fois de la confiance au marché, et il faut bien comprendre quelque chose de très spécifique, pas seulement au marché des crypto-monnaies, mais surtout dans ces phases d'euphorie. Le marché des crypto-monnaies revalorise très fortement le marketing et, on peut le dire, je pense, le mood, le sentiment, la tendance. Et en ce moment, le moindre ressenti, la moindre visibilité, la moindre confirmation que Donald Trump est, par exemple, en train d'appliquer une politique qui va dans le sens de ses promesses, eh bien, ça vient encourager et ça vient pousser les investisseurs à injecter encore plus de liquidités parce qu'on l'a compris, le marché est comme sous effet de levier. Chaque news va être très positif, perçu comme tel, et va pousser les investisseurs à injecter encore plus de liquidités.
Dernière grosse réaction qui a eu lieu cette semaine, c'est quand même Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie, qui reconnaît clair que le Bitcoin serait inarrêtable. C'est la première fois qu'on a telle déclaration d'un chef d'État aussi puissant.
Oui, alors peut-être que Donald Trump a dû dire des choses de la même manière, mais c'est vrai que Poutine étant très orienté sur le rapport de force, finalement, il admet que Bitcoin est inarrêtable et donc il sous-entend que finalement il ne sert à rien d'essayer d'interdire Bitcoin, alors qu'on aurait pu imaginer venant de sa part des tentatives peut-être d'interdiction d'une monnaie qui n'appartient pas à son État.
Et quel intérêt il a à dire ça? De parler du Bitcoin comme ça, quel intérêt lui a, la Russie a, de parler du Bitcoin comme ça, de s'exprimer de la sorte?
Là, il fait un simple constat, hein. Il n'est pas en train de dire qu'il est particulièrement pro-Bitcoin. Je pense que ce qui intéresse Poutine sur Bitcoin, c'est le fait que Bitcoin permette à des États d'être de plus en plus indépendants du dollar américain. Et voilà, le rapport entre les États-Unis et la Russie étant ce qu'il est, tout ce qui éloigne d'autres États des États-Unis est plutôt bon pour Poutine. Donc ça doit sans doute l'intéresser dans Bitcoin. Ceci étant dit, Poutine, comme des grands dirigeants à tendance un peu autoritaire, ne va pas pour autant favoriser l'adoption de Bitcoin dans sa propre population. Donc il essaye de voir où il peut y trouver son compte, et puis il fait là simplement un constat très lucide sur la situation, qui est qu'aucun État ne peut décider d'arrêter Bitcoin.
Owen, même question un petit peu sur cette déclaration de Vladimir Poutine. Est-ce que c'est une simple déclaration, voilà, dite comme ça, ou alors il y a quelque chose qui pourrait se tramer derrière?
C'est possible qu'il y ait quelque chose qui se trame derrière. C'est pas la première fois qu'on parle encore une fois d'une prise de parole d'un représentant russe en disant que peut-être ça veut dire que leur position est en train d'évoluer. Ce que l'on sait, c'est qu'en effet, tout ce qui va être, on va dire, contre le dollar ou contre les États-Unis peut être un argument ou peut être un point d'intérêt pour eux. Et ce que l'on voit également, c'est qu'il y a un point très clair sur le fait que Bitcoin est inarrêtable. En gros, que ce soit avec ou sans nous, cette évolution va se faire. On l'a compris. Le fonctionnement et l'actif, lui, continuera de fonctionner de la même façon. Donc, pourquoi ne pas l'épouser plutôt que d'essayer de le contourner et d'essayer de s'en protéger? Après, encore une fois, c'est dans un contexte où, il faut le rappeler, une grosse quantité de liquidités et d'accès financiers ont été bloqués par l'Union européenne et par le monde de manière générale depuis le début de la guerre en Ukraine. Et donc, en tant que représentant de la Russie, il faut songer à des différentes alternatives. Et c'est vrai que, pour le coup, Bitcoin et certains actifs peuvent apporter des réponses puisque ce sont tout simplement des monnaies qui sont incensurables.
Et j'ai une question. Alors, dans cette question, il y a plusieurs questions, mais quand bien même ce cycle serait similaire au cycle précédent, où est-ce qu'on en est clair dans ce cycle-là? Voilà, on a une barre symbolique des 100 000 dollars qui a été passée. On a eu un halving en avril du coup de cette année. En général, et ceci n'est pas un conseil en investissement, le top du cycle a lieu un an après le halving, ce qui nous amènerait là en avril 2025, à peu près.
Peut-être un an et demi après.
Un an et demi, bon, ouais. Là où est-ce qu'on en est dans le cycle, dans cette montée-là? On a plein de déclarations de gens qui disent que c'est fini, de gens qui au contraire disent que ça va monter beaucoup, beaucoup plus fort. Certains parlent de 250 000 dollars avant le mois de mai, alors évidemment ça reste de la boule de cristal, mais comment est-ce qu'on peut se situer dans le cycle-là actuellement?
Là, effectivement, ce qu'on a observé sur les cycles précédents, c'est un top qui arrivait à la fin de l'année qui suivait le halving. Donc s'il se passe la même chose, le top arriverait fin 2025 cette fois, donc dans un an par rapport à aujourd'hui. Je pense qu'il faut être très prudent par rapport à ce type de prévision parce que ce cycle il est très particulier. On a un certain nombre d'institutions qui sont arrivées sur Bitcoin avant le halving, si bien qu'on est arrivé sur le halving avec des cours qui étaient historiquement hauts. Bitcoin avait a repassé son record avant même ce fameux halving.
Ce
qui n'était jamais arrivé. Donc il y a plein de scénarios possibles. Soit le cycle a commencé plus tôt qu'auparavant. Soit on est simplement sur un cycle qui est différent, qui va peut-être être moins fort ou plus fort ou qui va durer moins longtemps. Soit certains parlent carrément d'un super cycle, c'est-à-dire que finalement à partir d'aujourd'hui, il y aurait quasiment plus de cycles sur Bitcoin et sur les cryptos et on serait sur une hausse très différente qui pourrait être un peu plus linéaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de correction, mais qu'en tout cas, on n'aurait plus ces grands mouvements de marché tous les 4 ans.
C'est ça, justement, Owen, c'est clairement la question qu'on se pose. Malgré l'arrivée d'institutionnels, là, cette année, malgré l'arrivée potentielle de certains gros États, on parlerait quand même de la première puissance mondiale, les États-Unis d'Amérique, est-ce que ce cycle-là, pour l'instant, mis à part le fait que le record a été dépassé avant le halving, ce qu'on vient de dire avec Claire et qui n'était jamais arrivé, est-ce que ce cycle-là a un comportement différent pour l'instant ou alors il est comparable au cycle précédent?
Pour moi, il est différent. Il y a évidemment des éléments de comparaison. On sait très bien que le halving est regardé parce que jusqu'à présent, c'est lui qui venait précipiter la hausse des crypto-monnaies. Mais faut bien réaliser que tout est différent, que ce soit en termes de volatilité. On parle de la hausse fulgurante de Bitcoin, mais en termes de pourcentage de valorisation, c'est beaucoup plus faible qu'en 2021 et c'était déjà beaucoup plus faible qu'en 2017. On a eu un nouveau record qui a été battu avant le halving, ce qui n'était jamais arrivé. Dans la même année, donc la même année 2024, on est venu battre un second record, sachant que ce n'était qu'en 2021 qu'il avait battu deux fois le même record dans la même année après une belle correction de 50% en 2021. En été 2021, il retouche les 30 000 dollars pour refranchir les 60 000 à la hausse en fin d'année, alors que quand on dézoome sur les cycles précédents, c'est-à-dire en 2017 et en 2013, c'était une hausse unique, durable, parce qu'elle a duré 6, 7, 8, 12 mois en 2017, si je dis pas de bêtises, avant de baisser durablement. Ce que je veux dire, c'est que tous les cycles sont différents. Et ce qui nous fait comprendre qu'on est réellement dans une configuration atypique aujourd'hui, encore une fois, c'est notamment dans les questions que posent les gens. Les gens veulent des réponses qui sont clivantes, des réponses qui sont oui, ça va monter, on va atteindre tel nouveau record, ou non, c'est terminé, le plus gros de la hausse est déjà derrière nous. On recommence à être dans cette configuration où les gens ont envie de comparer la situation que nous vivons maintenant aux précédentes en imaginant que nous allons avoir 4, 6, 12 mois de hausse. On ne peut réellement pas le savoir. Un truc qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup plus de liquidité, beaucoup plus de volume, la typologie des investisseurs est différente, et donc quand on parle de l'évolution de Bitcoin, on ne va pas parler de son évolution technique, mais bel et bien de son prix, et uniquement de son prix. Et là, pour le coup, il y a de nouveaux acteurs à la table, notamment les institutions et des gros acteurs, des gros investisseurs qui peuvent décider à eux seuls de replonger le marché dans un plus bas pendant quelques mois s'ils décident de vendre, ou au contraire, une grosse actualité, comme par exemple un nouvel État qui décide de définir une réserve sur le Bitcoin et qui pourrait accélérer son prix pour le faire toucher un nouveau record. Je pense que d'un point de vue des cycles, on va s'éloigner un petit peu de cette espèce de répétition quasi mathématique que l'on a connu en 2013, 2017, 2021, même si le halving risque de rythmer et d'être toujours un métronome pour certains, ce sera plus aussi évident et mathématique que l'on a, qu'on a connu jusqu'à présent.
Claire, le prochain événement qui pourrait catapulter encore à la hausse le prix du Bitcoin, c'est quoi? C'est des réserves stratégiques, par exemple, de Bitcoin qui seraient faites par les États-Unis. C'est ça la prochaine étape potentielle qui pourrait vraiment faire monter une marche encore au Bitcoin?
Alors ça peut être effectivement la concrétisation des promesses qu'a fait Donald Trump. Ça peut aussi être, je sais pas, des signaux positifs venant de certains autres gouvernements, pourquoi pas. J'ai vu qu'il y avait eu au Brésil, par exemple, des députés qui avaient déposé des projets de loi pour faire eux aussi des réserves stratégiques en Bitcoin. Donc ce type de signal-là, c'est toujours un symbole intéressant et fort, même si il n'y a aucun État qui est, je dirais, aussi important que les États-Unis quand il s'agit de signal sur Bitcoin. Donc oui, ça peut faire monter le cours. Je pense que, en fait, ce qui va tirer le cours à la hausse, ça va plutôt être une sorte d'emballement, je dirais, médiatique et financier, comme on en a connu dans les cycles précédents. Et là, on le voit quand on regarde les tendances sur Google, par exemple, on sent bien que le nombre de recherches recommence à augmenter, et donc que le retail, les particuliers arrivent désormais sur Bitcoin et qu'on va peut-être connaître de nouveau ce qu'on avait eu dans les précédents cycles, c'est-à-dire, tous les individus qui se mettent à parler de crypto, alors que finalement, pendant 3 ans, ils ont pensé que c'était terminé.
Bon, plus un emballement médiatique, psychologique que des faits concrets, en tout cas dans ce genre de période de marché. Owen, il nous reste très peu de temps. Bon, je suis obligé de poser la question, vous l'avez déjà posé 150 fois, mais est-ce que c'est le moment d'acheter du Bitcoin? Je vous pose la question parce que j'ai plein de nouvelles personnes, moi-même, qui me posent la question et c'est important quand même de leur répondre.
Comme j'aime bien le dire, c'est très dur de répondre à une seule personne et les gens veulent du oui ou du non, alors que ce n'est pas aussi simple. Donc, je ne donnerai pas de réponse simple. Je pense que, et selon mes convictions, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais je pense que c'est toujours une bonne chose d'en acheter raisonnablement en fonction de l'argent qu'on est prêt à perdre et surtout si on se fixe un objectif dans le temps long. Sur du court terme, surtout après la hausse que nous venons de vivre, je trouve qu'il y a naturellement beaucoup de risques, encore plus aujourd'hui avec un Bitcoin autour des 100 000 qu'il ne l'était dans les 2 dernières années, alors qu'on était toujours à s'intéresser à cette technologie et à donner ce rendez-vous tous les vendredis. En l'occurrence, sur une période de temps long, et si vous visez 2, 3, 4, 6 ans d'investissement, je suis toujours convaincu que Bitcoin, sur le long terme, a plus de chances de s'apprécier qu'il n'en a de se déprécier.
Claire, quelques secondes, si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus.
Moi, je dirais, si vous voulez faire des profits très importants en 2 semaines, non, n'achetez pas du Bitcoin maintenant. Il n'y a pas grand-chose qui va vous permettre de faire ça. En revanche, si vous voulez acheter du Bitcoin progressivement, parce que vous croyez à une tendance haussière dans les années qui viennent et que vous avez un horizon de temps, je ne sais pas, 4, 5, 6 ans ou plus, là oui, c'est une bonne idée.
Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. On vous retrouve vendredi prochain pour suivre toujours une semaine qui sera peut-être aussi folle que celle-ci. Merci d'avoir été avec nous. Owen Simonin, fondateur de la chaîne YouTube Asher et CEO de Merea. Merci beaucoup Claire Balva d'avoir été avec nous également, directrice de la stratégie de Desbloc. Bon week-end.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.